Bon, ce matin on va voir un message. En fait, bon, je dis en français première, juste un mot. Et c'est un message que j'ai déjà partagé à Tarragone avec mon église, mais je vous pertinent de le partager aussi avec vous. Et c'est un passage qui se trouve à Josué 8, verset 1 à 29. En fait, on va le lire qui est en français parce que c'est assez long, mais c'est vraiment important de lire tout le passage parce que sinon on va rien comprendre. Donc c'est vraiment important de tout lire. Vamos a meditar en Josué 8. Les digo que es un mensaje que compartí una ocasión con vosotros en la iglesia de Tarragona, pero que creo, bueno, veía muy interesante para la ocasión de poder compartir también con ellos. Y se va a leer es Josué 8, versículos del 1 al 29. Lo va a leer Pierre en francés, entonces ir siguiéndolo en la Biblia es importante porque si no vemos todo el pasaje no se va a entender nada, ¿vale? Es Josué 8, del 1 al 29.
Bon, je vous lis en français alors, hein? Pour les Espagnols, suivez-vous sur votre Bible en espagnol. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple et sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. » Placez une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade, et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi Dai et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où ils l'avaient poursuivi, et qu'ils furent jusqu'au dernier passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants étaient dévoués par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui.
Bueno, gracias a Pierre porque era una lectura super larga y bueno, y también por la traducción.
C'était une lecture très longue.
Merci à Pierre, j'ai dit.
Merci à moi-même pour avoir lu le passage.
Bueno, estaréis de acuerdo, yo creo, decídmelo si no conmigo, si digo que uno de los baremos que utiliza la sociedad hoy en día, que utilizamos todos, para... Bueno,
para... Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que un des barèmes les plus utilisés dans notre société...
Para valorar a las personas, para valorarnos a nosotros y a los que nos rodean...
Pour juger les personnes...
Es en función de nuestros logros y de nuestras victorias.
C'est en fonction, en fait, de nos victoires et de nos... de ce que nous faisons.
Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, todos sabemos...
Dans le monde du travail, nous savons que...
Que si cuantos más logros que tengamos, cuanto mejor currículum tengamos, cuantos más méritos hagamos en el trabajo...
Plus nous avons un curriculum long, plus nous avons de mérite...
Mejores puestos tendremos, o mejores oportunidades tendremos.
Meilleurs postes nous aurons, évidemment, et un meilleur salaire.
Por ejemplo, en el mundo del deporte, en el fútbol, a todos os gusta el fútbol, supongo.
Dans le monde du football...
Las victorias se premian con 3 puntos y las derrotas 0 puntos, ¿no?
Les victoires se payent avec 3 points, et évidemment les défaites avec un seul.
De hecho, en español hay una frase que se suele utilizar mucho que es a nadie le gusta perder. A mí no me gusta.
Alors, en español y en francés d'ailleurs aussi, il y a une frase qui est très utilisée, c'est personne n'aime perdre.
Y de hecho el pueblo de Israel, como todos sabemos, era un pueblo guerrero en tiempos del Antiguo Testamento.
Alors, pour revenir à Israël, Israël est un peuple guerrier.
En tiempos del Antiguo Testamento.
Dans l'Ancien Testament.
De hecho era un pueblo acostumbrado a las batallas, acostumbrado a tener que batallar.
C'est un peuple qui a l'habitude de batailler en fait.
Y de hecho un pueblo acostumbrado también a las victorias y al que no le gustaba perder.
Et bien entendu, un peuple habitué à gagner et non pas à perdre.
Antes de meternos en profundidad en el texto que nos ha leído Pierre, antes de empezar a estudiarlo.
Avant de rentrer profondément dans le texte, avant de commencer à étudier le texte.
Vamos a hacer un repaso histórico. No sé si os gusta la historia. A mí me gusta, pero.
On va essayer de repasser un peu nos connaissances historiques.
Para entender el texto es imprescindible ver en qué contexto se encuentra este pasaje.
Donc pour bien comprendre le texte, il est tout à fait utile de connaître le contexte dans lequel le passage est lu.
Nos dice justo antes del libro de Josué encontramos el libro de Deuteronomio que nos narra al final del libro de Deuteronomio nos narra cómo el pueblo de Israel llega a la tierra prometida.
Donc le livre de Deutéronome ainsi que le livre de Josué nous rappelle en fait comment le peuple arrive vers la terre promise.
De hecho, tenemos en Deuteronomio 34 se nos narra cuando Dios le muestra a Moisés la tierra prometida porque Moisés recordar que no iba a entrar en ella.
Oui, donc on se rappelle donc Moïse montre au peuple la terre promise sachant que lui-même ne va pas y rentrer.
Y recordad que el pueblo había pasado 40 años en el desierto, ¿os acordáis, no? Hasta llegar ahí.
Et rappelons-nous que ce peuple d'Israël a passé 40 ans à tourner dans le désert.
Durante ese tiempo, Josué ya había sido bueno, un personaje que Dios había utilizado, era el jefe del ejército del pueblo de Israel.
Durant cette période, Josué avait déjà été utilisé par Dieu, donc il était chef de l'armée d'Israël.
Y de hecho, si recordáis, hay un pasaje en Números 27 que nos dice del 15 al 23. No vamos a leer todos los pasajes, sino va a ser muy largo. Pero en Números 27, del 15 al 23, se nos...
Alors, on va pas lire tous les passages, vous avez compris. Donc, dans Josué 15... Números
15, número. 27, del 15 al 23.
Donc, dans Nombre
27
del 15 chapitre... Al 23. Du verset 15 à 27.
Vemos como Moisés ya comisionó a Josué como delante del sacerdote Eleazar, ¿recordáis? Comisionó y de toda la congregación comisionó a Josué como su sucesor.
On voit donc comment Moïse devant le peuple a présenté Josué comme successeur.
Entonces nos encontramos en el libro de Josué cuando empieza el libro de Josué.
Quand commence le livre de Josué.
Vemos como Moisés no entra a esa tierra prometida, Josué toma el mando del pueblo.
Donc Moïse ne rentrera pas dans la terre promise et Josué commence à prendre les commandes.
Y Dios en el capítulo 1, de hecho, Alejandro ha sido el versículo que ha utilizado en su testimonio.
Dans le chapitre 1, donc, c'est ce que Alexandre a utilisé dans son témoignage.
De hecho, vemos como Dios anima y... Me sale en francés y no en español. Encourage, en valentona, bueno, anima a Josué a que sea valiente, a que se esfuerce. Él le dice, ¿ves esta tierra?
Donc on voit dans le chapitre 1 comment Dieu encourage Josué à aller de l'avant, à se fortifier, à prendre courage et à rentrer dans la terre promise.
Le dice, esta tierra que ves delante tuyo, delante vuestro, yo os la he entregado en vuestras manos.
Cette terre que vous voyez devant vous, je vous la donne à vous et à vos enfants.
Así que coge el pueblo, recordad también que Dios separa, divide las aguas del río Jordán y todo el pueblo cruza ese río.
Donc vous savez que Dieu a séparé les eaux du Jourdain pour que le peuple puisse passer vers la terre promise.
Y se dirigen a la primera ciudad que van a conquistar.
Et donc ils vont vers la première ville qu'ils vont prendre.
¿Cuál era?
¿Laquelle?
Concurso españoles franceses. ¿Qué? Jericó.
Jericó.
Recordéis la historia, ¿no? Que bueno, están durante seis días los hombres de guerra con los sacerdotes dando vueltas con siete sacerdotes dando vueltas alrededor de la ciudad.
Vous vous rappelez de l'histoire, donc ils font six fois le tour de la ville avec sept sacrificateurs.
Y al séptimo día dan siete vueltas.
Et le septième jour, ils font sept tours de la ville.
Tocan las trompetas que llevaban, los cuernos, las bocinas.
Ils jouent de la trompette, des cornes.
¿Y qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con los muros?
Et qu'est-ce qui se passe avec les murs abajo de la ville?
Se vienen abajo. Pues ya tienen la primera ciudad conquistada.
Et voilà la première ville prise.
Para quien quiera leerlo en casa, es Josué 6.
Donc c'est dans Josué 6 que c'est raconté.
¿Y qué sucede con esa ciudad? Recordad que Dios la declara anatema.
Donc Dieu déclare cette ville anatema.
Y para los que a lo mejor no os acordéis o no lo sepáis, cuando Dios declara una ciudad anatema,
alors si vous ne savez pas, quand Dieu déclare une ville anatema ou maudite,
todo ser viviente debía ser eliminado, debía ser aniquilado y se tenía que coger y todo lo material también, solo se podía coger el oro y la plata y los utensilios de bronce y hierro y ponerlos en el tesoro de Jehová.
Donc, quand une ville était anathème, donc tout être vivant devait être tué, le matériel aussi devait être brûlé, seul on pouvait garder l'or, l'argent et
hierro,
le fer
y el bronce,
et le bronze.
Utensilios de bronce.
Voilà. Tout ce qui était en métal.
Porque he dicho, excepto hubo una excepción, ¿recordáis? No vamos a entrar en el capítulo 6 porque se va a ser muy largo.
Solamente una excepción.
recordáis que Rahab, la mujer, recordáis de Jericó.
Vous vous rappelez de Rahab?
Fue perdonada. Si queréis leer la historia, os la leéis. No voy a.
Voilà, vous pouvez lire l'histoire dans la Bible.
Pero luego todo, vamos a ver por qué explicamos todo esto ahora. Es muy importante para el texto.
Vous verrez après pourquoi on explique tout ça.
Entonces, bueno, Jericó ya está conquistada y se dirigen a la segunda ciudad.
Alors Jericó est prise et donc ils vont se diriger maintenant vers la seconde ville qu'ils ont à prendre.
Ciudad que, por lo que podemos entender del texto, no se nos dice, pero tenía pinta de ser pequeña, parecía ser pequeña.
Alors le texte ne le dit pas directement, mais on pense que la ville était petite.
Situada a unos 15 kilómetros al noroeste de Jericó.
Elle est située donc à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Jéricho.
¿Y qué ciudad es?
Et quelle est la ville?
La villa de Ai, la que estamos, la que vamos a ver en esta mañana.
Voilà, c'est la ville dont on va parler ce matin.
De hecho, en este capítulo 8 que se nos ha leído, se nos narra la conquista de la ciudad.
Donc dans le chapitre 8 qu'on vient de lire, on nous raconte la prise de la ville.
Pero no es la primera vez que lo intenta el pueblo.
Mais c'est pas la première fois que le peuple essaye de la prendre.
De hecho, en el capítulo 7, el capítulo anterior, se nos narra el primer intento del pueblo.
Dans le chapitre 7, on nous raconte le premier essai pour essayer de prendre la ville.
Y nos dice el texto que Josué envió espías, de la misma manera que para conquistar Jericó.
Alors, il nous est dit que Josué a envoyé des espions pour espionner la ville, pour voir.
Todo esto en el capítulo 7, lo podéis leer en casa.
Tout cela dans le chapitre 7, hein, vous le lisez à la maison.
Y los espías, cuando vuelven a Josué, le dicen: bueno, con 2.000 o 3.000 hombres que enviemos, la ciudad es nuestra.
Alors, quand les espions reviennent, ils disent à Josué: avec 2 ou 3.000 personnes, ça suffira pour prendre la ville.
Pero algo salió mal.
Mais quelque chose se passa très mal.
El pueblo de Israel sube a conquistar Ai y cae derrotado.
Alors, Israël monte pour prendre Ai avec 2 ou 3.000 personnes et il est vaincu.
Josué no entendía nada, imaginaros. En el capítulo 1 le estaba diciendo Dios: esta tierra que la tenéis, que veis delante vuestro, la he entregado en vuestras manos.
Alors Josué ne comprend plus rien. Il se rappelle du chapitre 1 où Dieu lui dit: je livre la terre promise entre vos mains, elle est à vous.
Y sin embargo están cayendo derrotados.
Et pourtant, ils sont vaincus.
Dice el texto, el capítulo 7, que Josué se presenta delante de Jehová con las vestiduras rasgadas. ¿Os imaginaros cómo estaba Josué?
Dans le chapitre 7, donc, on nous montre Josué qui se présente devant Dieu avec les vêtements déchirés.
Y se pregunta: bueno, ¿por qué hemos perdido esta batalla si tú nos habías dicho que íbamos a vencer?
Et il demande à Dieu: mais pourquoi as-tu permis que nous soyons vaincus alors que tu nous avais dit que nous gagnerions?
De hecho, ¿sabéis por qué perdieron esa batalla?
Alors, est-ce que vous savez pourquoi ils ont perdu cette bataille?
Pues nos dice, y es por eso que era importante ver el contexto histórico.
Alors, il nous a dit, et c'est pour ça qu'on a regardé le contexte historique tout à l'heure,
que la primera vez que intentan conquistar la ciudad de Ai, caen derrotados porque hubo alguien que en Jericó robó de los tesoros que tienen que ir a Jehová, al tesoro de Jehová.
Alors il nous est dit donc ils ont perdu la bataille parce que quelqu'un dans le peuple a commis un vol.
Lo vemos en Josué 7, los últimos versículos.
Alors on le voit dans le chapitre 7, au dernier verset.
Nos dicen que una persona llamada Acán,
une personne donc appelée Acán,
había tomado para sí un manto babilónico y oro y plata.
Avait volé un manteau de Babylone et un peu d'or et d'argent.
¿Y sabéis cuál fue la solución para que Dios se volviese de su ira? Nos dice el capítulo 7, versículo 26.
Et vous savez quelle est la solution? Quelle était la solution pour que Dieu revienne de sa colère?
Nos dice el capítulo 7 y versículo 26.
Dans le chapitre 7, verset 26.
Nos dice que la solución fue coger a Acán y darle muerte.
La solución es d'attraper Acán y de le tuer.
Y es justo en este momento en el que nos encontramos en el texto que vamos a meditar en esta mañana, en esta segunda, bueno, en este segundo intento de conquistar la ciudad.
Voilà, c'est donc à ce moment-là qu'on se retrouve dans le texte qu'on a lu, dans le second essai pour prendre cette ville.
Hemos seguido todos el repaso histórico.
Le passage historique est terminé, vous avez tout suivi?
Sí. es importante, oh. Bien. Pues aquí entramos ya en el capítulo 8.
Alors, on rentre dans le chapitre 8.
Y ya en el primer versículo se desprende el primer punto importante que vamos a tratar en esta mañana.
Alors, dans le chapitre 8 et au verset 1 déjà, il ressort déjà la première chose importante que nous allons voir ce matin.
El primer punto es que Dios da una nueva oportunidad al pueblo.
Donc la première chose c'est que Dieu donne une nouvelle opportunité au peuple.
Fijaros que el versículo 1 es muy curioso. Empieza diciendo capítulo 8, Josué 8 versículo 1, no temas ni desmayes.
Le chapitre 8 verset 1 il est très très bizarre en fait, il commence
ouais. No temas ni desmayes.
Ah, ne crains point et ne t'effraie point, pardon.
Empieza igual que empezaba el capítulo 1 de Josué, versículo 9, que ha leído también Alejandro.
Il commence de la même manière que le chapitre 1 que nous a lu Alejandro.
De hecho, es como si Dios estuviese renovando su pacto con Josué en ese momento.
C'est comme si Dieu était en train de renouveler son pacte avec Israël.
Y yo me preguntaba...
Et moi je me demandais...
¿Por qué Jehová renueva su pacto con Israel?
¿Por qué Dios renueva su pacto?
¿Por qué le da una nueva oportunidad? ¿Por qué le da esta nueva oportunidad? ¿Por qué
le da una nueva oportunidad?
Pues del texto se deduce, del texto del capítulo anterior, que Dios da una nueva oportunidad al pueblo.
On déduit donc du chapitre antérieur que Dieu donne une nouvelle opportunité au peuple.
Porque el pueblo, de hecho, fue capaz de identificar el pecado que había cometido.
Parce que le peuple a été capable d'identifier le péché qu'il avait commis.
Y no solo eso, sino de eliminarlo.
Et non seulement cela, mais aussi de l'éliminer.
Y a mí me gusta mucho comparar el pueblo de Israel con la vida del creyente.
Alors j'aime bien comparer le peuple d'Israël avec les croyants actuels.
De hecho, y de la misma manera que el pueblo de Israel pasó años en busca de la tierra prometida.
De la même manière qu'Israël a passé 40 ans dans le désert, dans l'attente de la terre promise.
Ellos se dirigían hacia esa tierra prometida.
Eux, ils cherchaient la terre promise, ils s'y dirigeaient.
Y de hecho, ellos tenían que pasar muchas pruebas, muchas batallas, muchas dificultades en ese camino, en esos 40 años en el desierto.
Ils devaient donc passer beaucoup d'épreuves et de batailles pour arriver à la terre promise.
Podríamos decir que nuestra vida también como personas podemos dividirla en muchas áreas.
Alors, on pourrait dire que notre vie à nous en tant que chrétiens peut être divisée en plusieurs étapes également.
Y también podríamos decir que el pueblo de Israel estaba dividido, bueno, estaba formado por muchas personas.
On peut dire aussi que le peuple d'Israël était formé de beaucoup de personnes.
De la misma manera que el pueblo de Israel, nosotros andamos hacia esa tierra prometida.
De la même manière qu'Israël, nous on aspire à cette terre promise également.
Y de la misma manera que el pueblo de Israel, muy posiblemente vamos a tener que pasar por años de desiertos, por años de batallas y de sufrimiento.
Et certainement comme le peuple d'Israël, nous avons besoin et nous allons passer par des moments désertiques où on aura des épreuves.
Y fijaros que el texto nos dice que Dios permitió la derrota de Ai en el capítulo 7.
Regardez que dans le chapitre 7, Dieu nous dit que il a permis la défaite.
Porque una sola persona del pueblo de Israel había pecado.
Parce que seulement une personne avait péché.
Una sola entre, se estima que el pueblo debería tener más o menos un millón de personas.
Une seule entre environ un million, on pense.
O sea, imaginaros, por una persona. Y eso nos puede hacer, nos puede enseñar en esta mañana que...
Imaginez-vous une seule personne, donc cela peut nous faire penser ce matin que...
Que por mucho que seamos hijos de Dios...
Que même si on est des enfants de Dieu...
Por mucho que tengamos la tierra prometida ahí, y sea una promesa de Dios...
Même si on a les promesses de Dieu et la terre promise, nous l'avons...
Si todas esas pequeñas áreas en las que podemos dividir nuestra vida...
Mais tous ces petits domaines dans notre vie,
si todas no están entregadas a Dios,
si tous ces domaines ne sont pas donnés à Dieu,
si existe el pecado en alguna de esas áreas,
si dans un de ces domaines nous avons un péché,
Es posible, nos arriesgamos a que cuando llegue el momento de prueba, cuando llegue la batalla.
Il est possible que quand nous serons dans l'épreuve,
posiblemente Dios no esté de nuestro lado.
Bien, il est possible que nous soyons vaincus et que Dieu ne soit pas à nos côtés.
Y es que la Biblia, a lo largo de la Biblia, nos encontramos infinidad de pasajes.
Dans la Bible, nous trouvons une infinité de passages
que nos hablan de lo importante que es mantener todas las áreas de nuestra vida en regla con Dios.
Il est important toujours de maintenir tous les domaines de notre vie en règle avec Dieu.
Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos.
On va donner deux exemples.
El ejemplo del área familiar, por ejemplo.
L'exemple du domaine familial.
Nos dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5.
En Timoteo chapitre 3 versículos 4 y 5.
Nos dice que, bueno, hablaba a los obispos, pero bueno, esto es aplicable a todo aquel que quiera servir a Dios.
Ça parlait des évêques, mais bon, ça s'applique à tous ceux qui veulent servir Dieu.
Nos dice que gobierne bien su casa.
Qu'il gouverne bien sa maison.
Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Qu'il garde ses enfants dans une entière soumission.
Por ejemplo, aquí vemos el área familiar. Dios nos pide realmente una entrega en ese área.
Donc Dieu nous demande à ce que nous lui donnions également ce domaine de notre vie.
Otro ejemplo, el área física.
Le programme physique aussi de notre vie.
Por ejemplo, dice en cuanto al área física, Romanos 6, 12 y 13.
Donc Romains 6, 12 à 13.
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Que le péché donc ne règne pas dans votre corps mortel.
De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Et également que c'est... Je ne le connais pas par cœur.
Romains 6, 12, 13.
Que le péché donc ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
Ça nous parle de las diferentes áreas de nuestra vida que deben estar entregadas a Dios.
Ça nous parle donc de tous les aspects de notre vie que nous devons donner à Dieu.
Pero sí que hay un aspecto importante que porque muchas veces criticamos al pueblo de Israel.
Il y a donc un fait important, c'est que souvent nous critiquons le peuple d'Israël.
Pero también yo creo que podemos aprender una lección aquí.
Mais je pense que nous pouvons apprendre évidemment une leçon ici pour nous-mêmes.
Y es que si nos fijamos, Dios había prometido la tierra, ellos habían conquistado ya Jericó.
Donc Dieu leur avait promis la terre promise, ils avaient déjà conquis Jéricho.
Y de hecho, bueno, Jericó estaba situada cerca del río Jordán, podrían haberse establecido allí, era una buena región.
Donc Jéricho était à côté du fleuve Jourdain, ils auraient très bien pu rester là, c'était un endroit suffisant pour eux.
Y sin embargo, ellos siguen batallando, ellos siguen hasta que no conquistan toda la tierra.
Voilà, et pourtant, le peuple d'Israël continue à prendre des villes jusqu'à ce qu'il conquiert tout le peuple, tout le pays.
Y eso nos tiene que decir algo, porque a veces los creyentes nos conformamos con saber que bueno, yo ya tengo la tierra prometida ganada.
Donc ça nous parle aussi parce que certainement d'une certaine manière le croyant peut penser j'ai déjà la terre promise.
¿Para qué seguir luchando?
Pourquoi continuer à batailler?
Me puedo quedar en las comodidades del río Jordán.
Je peux rester dans les commodités du fleuve Jourdain.
Pero sin embargo, Dios nos anima, igual que le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente.
Mais de notre côté, Dieu nous dit de continuer et d'être vaillant.
Nos dice que Él quiere que le entreguemos todas las áreas de nuestra vida y eso exige esfuerzo y exige lucha.
Donc lui nous demande à ce que nous lui donnions toute notre vie et cela évidemment demande des efforts.
Y aparte de esto hay un detalle también que
il y a aussi un autre détail.
Es importante. Todavía estamos en el primer punto, ¿eh?
C'est le premier point encore.
En esta nueva oportunidad que Dios da. Hay un detalle que nos dice el capítulo 7. El capítulo 7 empieza.
Le chapitre 7 donc commence par.
En el primer intento de conquista de Ai cuando ellos pierden.
Par le premier essai donc de conquérir et là où ils sont vaincus.
¿Quién es que habla? ¿Quién empieza hablando?
Qui commence à parler?
¿Quién envía?
¿Qui les envoie?
Es Josué. Dice el texto que Josué envía.
C'est Josué qui les envoie.
Sin embargo, este capítulo 8, el capítulo en el que vemos que el pueblo obtiene la victoria,
dans le chapitre 8, par contre, où on voit que le peuple est victorieux,
¿quién es que habla primero? ¿Qué dice el versículo 1?
Qui parle en premier au verset 1?
Dice, Jehová dijo a Josué.
Dieu donc dit à Josué.
Y eso también tiene que ser porque a veces nos cuesta, las personas necesitamos ejemplos prácticos para entender.
Donc, souvent on a besoin d'exemples pratiques pour pouvoir comprendre.
¿Cómo saber si en medio de la batalla Dios está de mi parte o no?
Comment savoir si pendant la bataille Dieu est avec moi ou n'est pas avec moi?
¿Cómo saber si en medio de las situaciones que vivo, que paso, Dios está a mi lado o Dios está airado contra mí?
Comment savoir si dans toutes les situations de ma vie Dieu est avec moi ou n'est pas avec moi?
Yo creo que una manera muy buena es ver, como se dice en español, quién lleva la voz cantante.
Alors, une bonne manière de le savoir, c'est finalement de savoir.
C'est qui dirige.
C'est voilà.
C'est
qui
en espagnol,
bon, c'est une expression espagnole qui est pas traduisible en français, mais qui dirige ma vie réellement.
C'est pardon. ¿Quién está en medio de las situaciones? ¿Quién está hablando?
Qui est au milieu des situations? Qui est en train de me parler et de me diriger?
Si es Dios.
Si c'est Dieu,
o si soy yo.
Ou si c'est moi.
En referencia a este punto, para concluirlo ya.
Pour le conclure dans ce point.
Una manera práctica de ver si Dios está a nuestro lado, si Dios va a estar a nuestro lado en medio de las situaciones difíciles.
Donc une manière pratique pour savoir si Dieu va être avec moi durant les moments difficiles.
Es preguntarte, ¿hay algún área de mi vida que no le he entregado todavía a Dios?
C'est de me demander, est-ce qu'il y a une parcelle de ma vie qui n'est pas donnée à Dieu encore?
¿Existe algún pecado en mi vida que me cuesta quitarlo?
Est-ce qu'il existe dans ma vie un péché qui pourrait me séparer de Dieu?
¿Soy yo quien toma la iniciativa o dejo que sea Dios?
Est-ce que c'est moi qui prends l'initiative ou est-ce que je laisse l'initiative à Dieu?
De hecho, vemos que si es así no es el fin del mundo, ¿eh? No pasa nada. Sí. Si se comienza, sepa la fin del mundo.
Oui, bueno, d'accord.
Dios nos da la solución.
Dieu nous donne la solution.
Dios nos dice, examina tu vida.
Donc Dieu nous dit, examine ta vie.
Identifica el pecado.
Identifie le péché s'il existe.
Y elimínalo.
Et élimine-le.
Es fácil, ¿no?
Bueno. C'est très facile.
En teoría.
C'est facile en théorie.
Y si seguimos leyendo, vamos a seguir avanzando un poco.
Donc si on suit notre lecture pour avancer un peu.
Vemos que no solo, en primer lugar hemos dicho que Dios da una nueva oportunidad.
Donc Dieu donne une première opportunité, une autre opportunité.
Sino que además Dios da una nueva estrategia.
Voilà, il donne en même temps une nouvelle stratégie.
Si os fijáis, a mí me encantan las películas de guerra, aunque suene mal decirlo.
Mais moi j'aime beaucoup les films de guerre.
Aunque suene mal decirlo.
No suena mal decirlo.
Ah, vale. Bon.
C'est pas une tare, hein.
De hecho, lo que me gusta mucho son las estrategias que siguen los.
Ce que j'aime beaucoup dans les films de guerre, c'est les stratégies qui sont mises en œuvre.
Y fijaros la estrategia que encontramos aquí, fijaros la batalla.
Et regardez donc la stratégie qui est mise en œuvre ici durant cette bataille.
O sea, nos dice el texto que, bueno, Dios le da esa nueva estrategia. Dios le dice a Josué. Pone emboscada en el pueblo.
Voilà, Dieu donne la nouvelle stratégie à Josué et il dit à Josué de placer le peuple.
Emboscada.
Ah, de placer le peuple en embuscade.
Y lo que hace Josué es, bueno, obedece esa estrategia. Vemos que el pueblo estaba situado aquí, para que nos hagamos una idea.
Donc Josué se contente d'obéir à Dieu. Le
peuple
est placé là.
Dios, Josué envía parte del pueblo, nos dice, al occidente.
Il envoie également une autre partie du peuple à l'occident.
Visto de vosotros desde aquí.
Voilà.
Y se esconden.
Ils se cachent.
Y otra parte del pueblo va al norte de la ciudad.
Et l'autre partie du peuple va au nord de la ville, de Haï.
Cuando Haï ve al pueblo, sale detrás de ellos.
Cuando
Haï ve al pueblo de Israel.
Quand il voit le peuple d'Israël,
Ellos salen a por el pueblo para batallar.
Donc hay les gendarmes sortent de la ville pour aller livrer bataille.
El pueblo de Israel huye.
Le peuple d'Israël s'enfuit comme la première fois.
Simulan que habían sido derrotados.
Ils simulent évidemment la défaite.
Y la gente que estaba en emboscada toma la ciudad, dejan la ciudad vacía.
Voilà, en fait, les gendarmes laissent leur ville ouverte et vide, et les gens qui sont en embuscade s'emparent de la ville.
Así que toman la ville, bueno, toman la ciudad.
Ils s'emparent de la ville.
Tenemos la ciudad tomada por Israel.
Donc la ville est prise par Israël.
Tenemos parte del pueblo aquí.
Une autre partie du peuple en haut.
Y en medio el pueblo de Ai que estaba en medio de todo el pueblo de Israel.
Voilà, et au milieu le peuple d'Ai qui est pris en tenaille.
Y todos cayeron, nos dice el texto, que no quedó ni una persona viva.
Et tous les gens d'Ai tombèrent morts.
Bueno, excepto el rey.
Exception faite du roi qui a été fait prisonnier.
Y yo me preguntaba aquí.
Je me posais la question.
¿Por qué Dios da una nueva estrategia?
Pourquoi Dieu donne une nouvelle stratégie?
De hecho, llevaban 40 años vagando por el desierto.
Ils avaient erré 40 ans dans le désert.
Y tenían, bueno, ¿cuántas batallas no habrían batallado?
Et ils avaient livré beaucoup de batailles.
Ellos conocerían a la perfección infinidad de estrategias.
Certainement, ils connaissaient beaucoup, une infinité de stratégies.
Sin embargo, Dios les dice.
Et pourtant, Dieu leur dit.
Que en esa ocasión quiere que pongan emboscada.
Et dans cette occasion, vous devez vous mettre en embuscade.
¿Por qué no como en Jericó, por ejemplo?
Pourquoi n'ont-ils pas fait comme dans Jéricho?
Yo pienso que Dios aquí quiere enseñarnos que debemos buscar cuál es su estrategia en cada situación.
Dieu veut nous enseigner certainement que nous devons chercher quelle est la stratégie de Dieu.
No debemos confiarnos en viejas victorias y ver.
Nous ne devons pas nous confier dans nos vieilles victoires.
Sino que debemos buscar para cada situación en particular cuál es la estrategia que Dios nos está ofreciendo.
Mais dans chaque bataille, nous devons chercher quelle est réellement la stratégie que Dieu veut mettre en œuvre à ce moment-là.
De hecho, lo que es la definición de estrategia, el concepto de estrategia.
Donc, en effet, la définition de la stratégie.
Es buscar mejorar o defender.
C'est chercher, améliorer, défendre.
Mi posición en el mercado, en este caso en la batalla.
Donc ma position dans la bataille ou dans le
marché, bon.
dans l'entreprise ou etc.
¿Cómo?
Comment?
Buscando o aprovechando nuestras las ventajas competitivas que tenemos.
Comment donc en profitant de notre expérience déjà et des avantages compétitifs.
Vous dites ça? Non. Ventajas c'est de ça que le féminin, de ça que le.
Oui, des avantages qu'on a.
De hecho, tenemos un Dios que es todopoderoso.
Nous avons un Dieu qui est tout puissant.
Tenemos un Dios que nos ofrece ventajas competitivas. Tenemos la ventaja competitiva.
Nous avons Dieu avec nous, donc nous sommes certainement très compétitifs.
Sabemos que en la batalla tenemos al que todo lo puede de nuestro lado.
Dans la bataille, dans les batailles, nous avons celui qui peut tout à nos côtés.
Aprovechémoslo.
Il faut s'en servir.
Fijaros que hay un versículo, yo creo que es uno de mis preferidos, si no el preferido de la Biblia.
Donc j'ai un verset donc qui est un de mes préférés.
Que dice, es Proverbios 3:5, que dice Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Donc c'est Proverbe 3, verset 5. Ne t'appuie pas sur ta sagesse,
fíate de Jehová de todo tu corazón,
mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur.
Y fijaros quién dice esto.
Et qui dit cela?
Lo dice Salomón.
C'est Salomón qui le dit.
Posiblemente la persona más sabia que el mundo ha conocido.
Certainement la persona la plus sage que le monde ait porté.
Sin embargo, él no se apoya en su propia prudencia.
Et pourtant, il ne s'appuie pas sur sa propre sagesse ou prudence.
No se apoya en sus propios logros, en su experiencia.
Il ne s'appuie pas sur ses victoires ou sur son expérience.
Sino que se apoya en Dios.
Mais il s'appuie pourtant sur Dieu.
Él busca la ventaja competitiva que Dios le ofrece.
Il recherche l'avantage que Dieu lui donne.
Y yo creo que es un ejemplo para todos que una persona tan sabia como él sea capaz de decir esto.
Et c'est un exemple pour tous qu'une personne aussi sage puisse le faire de cette manière.
Y respecto a la estrategia, un detalle también importante.
Et en parlant de stratégie, un détail très important.
Fijaros que en el versículo 3,
dans le verset
13
du chapitre 8,
dice que Josué escogió 30.000 hombres fuertes.
Il est dit que Josué a choisi 30.000 personnes fortes.
Fuertes, o sea, además de 30.000 fuertes, o sea, como Alejandro, no como yo.
En plus de 30.000, il fallait qu'il soit fort.
O sea, como Alejandro.
Como Alejandro.
O sea, imaginaros la situación comparado con el capítulo 7 que nos dice que envió como a 3.000 hombres.
Alors, rappelez-vous qu'au chapitre 5, ils avaient envoyé seulement 3.000 hommes.
Se trataba del mismo pueblo.
On parle du même peuple.
Y de hecho, Josué no era estúpido, Josué era un hombre de guerra y si envió a 3.000 es que con 3.000 se podía.
Et certainement Josué n'était pas un imbécile. Et s'il avait envoyé 3.000 personnes, c'est que normalement c'était suffisant pour prendre la ville.
Sin embargo, esta vez envía 30.000 hombres fuertes.
Et pourtant, maintenant, il envoie 30.000 personnes, 30.000 hommes forts.
Esto nos tiene que enseñar también, nos tiene que dar una lección en esta mañana.
Donc là, on peut apprendre certainement beaucoup de choses ce matin.
Y es que muchas veces creemos, o el creyente pensamos...
Et c'est beaucoup de fois, le croyant pense et croit...
Que sí, las cosas se tienen que hacer, las cosas del Señor se tienen que hacer bien.
Oui, que les choses que Dieu nous demande, nous devons bien les faire.
Pero si se puede optimizar recursos, mejor.
Mais si on peut optimiser la manière, tant mieux.
De hecho, en la universidad no paran de enseñarnos técnicas de optimización aplicado a todo. À l'université, on...
Ah oui, à l'université, on nous apprend à optimiser justement tout ce qu'on fait.
Pero vemos aquí que Dios no quiso optimizar.
Mais on voit ici que Dieu n'a pas voulu optimiser quoi que ce soit.
Y es que fijaros en el versículo no quiero equivocarme, en el capítulo 7 y versículo 3, capítulo 7, versículo 3.
Au chapitre 7, verset 3.
Los fijaros cuál era la cómo decir el pensamiento de los hombres de Israel. Le dicen: no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. No fatigues a todo el pueblo.
Donc le peuple d'Israël, quand les espions sont revenus, on leur a dit, mais avec 2 ou 3.000 personnes, cela suffit pour prendre la ville, c'est pas la peine de fatiguer tout le peuple.
Sin embargo, Dios a veces nos pide que nos involucremos hasta tal punto que no busquemos simplemente optimizar, sino que busquemos hacer las cosas con excelencia.
Certaines fois, Dieu nous demande que nous nous que nous cherchions à faire les choses comme lui les veut et pas comme nous pensons que c'est bien de les faire.
Así que ya hemos visto los dos primeros puntos de esta mañana.
On a vu déjà les deux premiers points ce matin.
Hemos visto que Dios ofrece una nueva oportunidad.
Dieu offre une nouvelle opportunité au peuple.
Dios ofrece una nueva estrategia.
Il lui offre aussi une nouvelle stratégie.
¿Y cuál fue la consecuencia de obedecer a Dios, de limpiar el pecado y de seguir esa nueva estrategia?
¿Y cuál es la consecuencia del hecho de que el pueblo ha obedecido a Dios y ha netoyado su pecado, finalmente?
¿Y ha seguido la estrategia que Dios
ha hecho? ¿Y ha seguido la estrategia que Dios ha puesto en œuvre?
Es el tercer punto en el que vamos a meditar en esta mañana.
Es el tercer punto del que vamos a hablar este matin.
Y es que Dios ofrece una nueva victoria.
Y Dios offre également une nouvelle victoire.
Como ya hemos hecho un poco el repaso de cómo fue la batalla, no vamos a repetirlo.
Donc on a déjà regardé comment s'était passée la bataille, on va pas le répéter.
Pero vamos a ver puntos claves de esta batalla.
On va quand même voir des points importants de cette bataille.
Vemos en el versículo 4.
Dans le verset 4.
El pueblo puso emboscada.
Le peuple se mise en embuscade.
Versículo 18.
Au verset 18.
Nos dice que una vez tomada la ciudad, nos dice que Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia ella.
Alors, une fois que la ville a été prise, Josué a tendu la lance qu'il avait à la main.
Vemos también al final que se nos dice en el texto que también descolgó al rey cuando lo había colgado, lo descolgó antes de que pasase la noche.
Il nous a dit aussi que il a décroché en fait en quelque sorte le roi de devant les portes de Haï.
antes de que pasase la noche.
Avant que la journée se finisse.
Esto lo decía la ley de Dios en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, era una ley.
Ça c'était une loi de Dieu, donc en Deutéronome 21.
Si alguien lo quiere leer en casa, 21, versículos 22 y 23.
Donc 22, 23.
¿Y por qué obtiene el pueblo esta nueva victoria?
Et pourquoi le peuple a-t-il obtenu cette nouvelle victoire?
Bueno, hemos dicho que había limpiado el pecado, lo había identificado y lo había limpiado.
Donc il avait réglé le problème du péché.
Siguieron la estrategia que Dios les había marcado.
Il a suivi la stratégie que Dieu lui avait donnée.
Pero además, el versículo 26,
le verset 27, pourtant,
nos dice, creo que la traducción en francés no dice lo mismo exactamente, pero en español empieza diciendo...
En français, en espagnol, il y a apparemment une différence.
Dice diciendo, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai.
¿C'est quel verset?
Le 26.
26. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués par interdit.
No sé si os recuerda algo esto.
Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
A otra batalla.
Une autre bataille.
Moisés, cuando Moisés todavía dirigía al pueblo.
Quand Moïse dirigeait le peuple.
Él peleó una batalla contra Amalek, ¿recordáis?
Donc il a dirigé une bataille contre Amalek.
Dios también le pide que sostenga sus brazos en alto.
Dieu lui demande également qu'il garde ses bras étendus.
Y en esa ocasión, recordar que Aarón y Ur le ayudan a sostener porque él no aguantaba más.
Dans cette occasion, et vous savez que Aaron et Ur l'ont aidé à maintenir ses bras levés.
¿Y por qué digo que este detalle de la lanza es clave?
Et pourquoi je dis que ce détail du javelot est important?
Fijaros que cuando Dios le da la estrategia a Josué,
quand Dieu donne la stratégie à Josué,
no le habla nada de la lanza.
Mais il ne lui parle pas du tout de ce javelot.
Es en medio de la batalla que le dice levanta tu lanza.
C'est au milieu de la bataille que Dieu dit à Josué de lever le javelot.
Y esto nos tiene que llamar la atención.
Donc ça doit attirer notre attention.
Muchas veces el creyente nos conformamos con tener claros los dos primeros puntos.
Donc souvent nous en tant que chrétiens, on se contente des deux premiers points.
Sabemos que Dios está de nuestro lado, él nos da una nueva oportunidad.
Nous savons que Dieu est de notre côté, il nous donne de nouvelles opportunités.
Sabemos que Dios nos da nuevas estrategias.
Nous savons que Dieu nous donne la stratégie.
Y luego en medio de la prueba, pues vamos de por nuestro lado.
Et au milieu de l'épreuve, eh bien nous faisons comme nous le sentons.
Y vemos aquí que Josué no desconectó de Dios, estuvo en todo momento en contacto.
On voit ici que Josué ne s'est pas déconnecté de Dieu, il a toujours été en contact avec Dieu.
Vemos que es en medio de ese proceso de esa batalla.
C'est au milieu de cette bataille, de ce processus,
que Dios quiso todavía hablar a Josué.
Que Dieu a voulu parler encore à Josué.
Yo no sé qué hubiese pasado si Josué no hubiese levantado la lanza.
Je ne sais pas ce qui se serait passé si Josué n'avait pas élevé ce javelot.
Pero lo que sí que está claro es que Dios tenía cosas que decir en medio de esa situación, no solo al principio de la batalla.
Mais il est clair que Dieu avait des choses à dire durant la bataille et non pas seulement au début.
O sea, es importante no perder el contacto con Dios en ningún momento. Es importante estar en relación con Dios en todo momento porque Él quiere hablarnos.
Donc il est certainement très important de toujours garder le contact avec Dieu d'une manière suivie.
Claro, posiblemente diréis, claro, para el pueblo de Israel era fácil.
Vous direz certainement, pour le peuple d'Israël, c'était très facile.
Dios hablaba directamente.
Dieu leur parlait directement.
Dios le decía, levanta la lanza, lo escuchaba y levantaba la lanza.
Alors Dieu leur disait, lève la lance, ben, il le faisait.
Pero nosotros, ¿cómo saber qué es lo que quiere Dios? Mais, en medio de cada situación para nuestra vida.
Mais pour nous, comment savoir ce que Dieu veut pour nous pendant les moments difficiles?
Yo creo que tenemos dos herramientas muy importantes.
On a évidemment deux outils très importants.
¿Cuáles son?
Quels outils?
Más fuerte.
Plus fort.
La palabra.
La parole de Dieu.
Para saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que quiere de nosotros.
Pour savoir ce que Dieu nous demande.
y la oración para devolverle, o sea, para que la relación, el contacto sea cerrado.
La prière pour que notre relation évidemment soit un dialogue.
Es evidente que Dios habla de otras maneras también.
Il est évident que Dieu parle de beaucoup de manières.
Dios puede hablar a través de personas.
Dieu peut nous parler à travers une personne.
A través de situaciones.
À travers évidemment de situations.
Nos dice que incluso la naturaleza habla de Dios.
Même de au travers de la nature.
Pero es cierto que tenemos esas dos herramientas poderosas.
Mais il est évident que nous avons ces deux outils très puissants.
Y de hecho, no sé si en yo creo que es algo mundial. Yo creo que es algo internacional.
C'est quelque chose d'international.
Una frase que los creyentes utilizamos mucho.
Une phrase que les croyants du monde entier utilisent beaucoup.
Decimos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
Moi je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie.
En Francia también.
En France aussi.
Y yo me pregunto, bueno,
et je me demande,
la Biblia tiene, depende de qué Biblia, pero tiene más de 1000 páginas llenas de la voluntad de Dios.
La Bible, bon, ça dépend peut-être de la Bible, des Bibles, mais a plus de 1000 pages.
Llenas de la voluntad de Dios.
Rempli de la volonté de Dieu.
Para tu vida y para mi vida.
Pour ta vie et pour ma vie.
¿Cómo decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
Comment pouvons-nous dire que nous connaissons pas la volonté de Dieu pour nos vies?
Cierto es que Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros.
Il est certain que Dieu a une volonté spécifique pour chacun de nous.
Pero la voluntad universal para todos sus hijos.
Mais la volonté de Dieu universelle pour tous ses enfants.
La tenemos aquí.
Nous l'avons ici.
Si no la aceptamos, si no la ponemos en práctica, si no la conocemos.
Si on l'accepte pas, si on la met pas en pratique et si on la connaît pas.
No le pidamos a Dios que nos muestre su voluntad específica para nuestra vida.
On n'a pas besoin de demander à Dieu dans ce cas-là qu'il nous montre sa volonté.
Fijaros un versículo que, bueno, de hecho son tres, que se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3.
Regardons donc dans 2 Timothée 3.
Versículos del 14 al 17.
Verset 14 à 17.
Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
O sea que vemos que es importante la palabra de Dios.
Nous voyons donc que la parole de Dieu est importante.
Y la segunda herramienta que decíamos, la oración.
Et le second outil dont nous parlions, donc la prière.
A veces menospreciamos el poder que ella tiene.
Et certaines fois, on sous-estime le pouvoir de la prière.
Sin embargo, hay muchísimos versículos en la Biblia que se nos habla del poder que tiene.
Et pourtant, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent du pouvoir de la prière.
Dejadme que os lea Juan 14:14, por ejemplo.
Laissez-moi vous lire Jean 14:14.
Dice, si algo pidierais en mi nombre,
si vous demandez quelque chose à mon nom,
yo lo haré.
Je le ferai.
Siempre que pidamos bien, ese es otro asunto.
Il faut qu'on demande quelque chose de bon. Ça, c'est une autre histoire.
Jeremías 33:3, ¿qué dice?
Jérémie 33, verset 3.
Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3.
Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Mateo 18:20,
dice,
porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo.
C'est pourquoi là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
O sea, que vemos que Dios no solo escucha las oraciones, sino que además es poderosa la herramienta de la oración.
On voit là non seulement que Dieu écoute les prières, mais qu'en même temps, la prière a un pouvoir réel.
Y dejadme que destaque un hecho que vemos en el texto, en el capítulo 8.
Laissez-moi vous montrer quelque chose que nous voyons dans le chapitre 8.
Que viene a apoyar la importancia de conocer la palabra de Dios, esa primera herramienta de la que hemos hablado.
Qui vient appuyer donc l'importance de la parole de Dieu.
Nos dice que Josué descolgó al rey, el cuerpo del rey, antes de que acabase la noche.
Donc il nous est dit que Josué a décroché le corps du roi de Haï avant la tombée de la nuit.
Y hemos visto que esto era, estaba escrito en la ley de Dios, debía ser así.
Et on voit écrit dans la loi de Dieu que ça devait se faire comme cela.
¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho?
Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas fait?
¿Hay aquí estudiantes de derecho?
Est-ce qu'il y a des étudiants en droit ici? Oui.
Rodolfo también en España. como se dice, como se suele decir en, corregirme si me equivoco, en derecho, en el ámbito de jurídico.
Donc, comme on dit dans le domaine juridique.
El hecho de no conocer una ley no te exime de cumplirla, ¿verdad?
Donc, le fait de ne pas connaître une loi ne t'empêche pas de la mettre en œuvre. Ou alors, en France, on dit, nul n'est censé ignorer la loi.
Y eso nos da a entender la importancia de conocer la palabra de Dios.
Cela nous montre donc l'importance de connaître la parole de Dieu.
Para no cometer errores tampoco, para no hacer cosas que enojen a Dios.
Pour ne pas commettre d'erreurs et ne pas commettre des actes qui déplaisent à Dieu.
O sea, es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios.
Donc c'est notre responsabilité de connaître la parole de Dieu.
Y fijaros también que Josué termina levantando un montón de piedras, nos dice el texto.
Et donc le texte termine en nous disant que Josué a érigé un tas de pierres sur le corps du roi.
Que de hecho el último montón que había levantado Josué.
Le dernier tas de pierres que Josué avait érigé.
Fue en la batalla contra el mismo pueblo, contra Ai.
C'est dans la même bataille contre Ai.
En el capítulo 7, los últimos versículos.
Dans le chapitre 7, au dernier verset.
Y en esa ocasión fue para recordar el pecado de Acán, para recordar la derrota.
Et c'était pour se rappeler justement du péché d'Acán.
En este caso él hace un montón de piedras.
À ce moment-là, il fait un tas de cailloux.
Para recordar la victoria.
Pour se rappeler de la victoire.
Yo creo que como creyentes también es muy importante que nos hagamos nuestros montones de piedras.
Et je pense que en tant que croyant, il est important que nous fassions pour nous aussi nos tas de pierres.
Que recordemos aquellos errores que hemos cometido.
Que nous rappelions des erreurs que nous avons déjà commises.
Y también que recordemos las victorias que Dios nos ha ofrecido.
Et que nous rappelions également des victoires que Dieu nous a offertes.
Dejadme concluir.
Laissez-moi vous conclure maintenant.
Haciendo un pequeño repaso a los tres, muy rápido, nombrar los tres puntos.
Voilà, on va refaire un flashback des trois points que nous avons vus.
Para que al menos nos podamos quedar con eso en esta mañana, que es lo más importante.
Que nous puissions nous rappeler de ces trois points.
Vemos que si queremos que Dios, no, me lo vais a decir vosotros, si queremos que Dios esté en medio de nuestras batallas, que Él nos ofrezca una nueva oportunidad, ¿qué debemos hacer?
Si vous voulez, si nous voulons que Dieu soit au milieu de nos batailles, qu'est-ce que nous devons faire?
Muy bien. debemos examinar, como hemos dicho, todas las áreas de nuestra vida, identificar el pecado y eliminarlo.
Nous devons donc nous examiner nous-mêmes et s'il y a un péché, le déterminer pour pouvoir le régler.
Dios nos va a ofrecer nuevas estrategias.
Dieu va nous donner de nouvelles stratégies.
Nos preocupemos, aprovechemos el poder de la oración, aprovechemos la palabra.
Nous devons nous servir de la parole de Dieu, nous devons nous servir aussi du pouvoir de la prière.
Y si somos capaces de obedecer a Dios, Él nos va a ofrecer también nuevas victorias.
Et si nous sommes capables d'obéir à Dieu, Dieu va nous donner d'autres victoires.
Así que no os preocupéis que cuál es vuestra situación ahora mismo. No es lo importante. Bueno, no es determinante en qué situación os encontréis ahora mismo.
Lo más importante es para vuestra situación actual.
Como decía Alejandro en su testimonio.
Como dice Alejandro en su testimonio.
Lo importante no es su pasado.
Lo más importante es para su pasado.
Lo importante fue que él fue capaz, igual que el pueblo, de reconocer el pecado y de eliminarlo.
Lo más importante es que Alejandro ha conseguido a identificar el problema. Et à le régler.
En qué situación estás tú ahora mismo?
Et dans quelle situation êtes-vous actuellement?
Examina tu vida.
Il faut s'examiner soi-même.
Coge una hoja de papel si te ayuda y escribe diferentes áreas de tu vida.
Tu peux prendre une feuille de papier et écrire les différents domaines de ta vie.
Mira si hay algo que tengas que poner en regla con Dios.
Regarde si tu as quelque chose à mettre en règle avec Dieu.
Y hazlo.
Et fais-le.
Y además es que a Dios le alegra. No va a ser un problema para Dios.
Et ça c'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est pas un problème que Dieu a avec
nous. De hecho, Dios cuando Josué identificó y eliminó el pecado del pueblo,
quand Josué a identifié le péché du peuple,
Jehová renovó su pacto con él.
Dieu a renouvelé son pacte avec lui.
Renovó su pacto con el pueblo de Israel.
Et également avec le peuple d'Israël.
Y le dijo, no temas ni desmayes.
Il lui a dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point.
Así que en esta mañana yo quiero invitaros a que hagáis ese examen de vuestra vida.
Alors je vous invite ce matin à examiner vos vies.
Que no lo dejéis para otro día.
Ne le laissez pas pour demain.
Yo creo que Dios quiere ofrecernos a todos victorias.
Je pense que Dieu veut nous offrir de nouvelles victoires.
Y es a nosotros de decidir si queremos que él esté de nuestro lado o queremos batallarlas solos.
Et c'est à nous à nous déterminer pour savoir si nous voulons que Dieu soit de notre côté ou non.
Vamos a orar.
Nous allons prier.
Señor, gracias porque en esta mañana tú quieres estar a nuestro lado, Señor. Gracias porque en medio de la batalla, Señor, tú nos das nuevas estrategias, Señor, y tú quieres darnos victoria, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a examinar nuestra vida, a ver en qué estamos fallando, Señor, y a poder eliminarlo, Señor. No es fácil, pero tú eres capaz de obrar, Señor, en nosotros, Señor. Muchas gracias porque tenemos dos herramientas que nos son muy útiles, Señor. Ayúdanos a aprovecharlas, Señor, como son tu palabra y la oración, Señor. Y de verdad, ayúdanos a querer vivir a tu lado, a querer vivir esas batallas a tu lado, Señor, y a querer salir victorioso, Señor. De nosotros depende. Tú estás ahí para decirnos no temas ni desmayes, Señor, pero la decisión es nuestra, Señor. Yo quiero pedirte de verdad que nadie salga indiferente en esta mañana, que pongamos nuestra vida en orden y que realmente podamos presentar todas esas áreas, Señor, para ganarlas, Señor, como el pueblo de Israel iba ganando esa tierra, Señor, poder ganar esas áreas de nuestra vida, Señor, para servirte, Señor, y para complacerte, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.